Donc, au cours de l'heure qui va suivre, je veux avoir le plaisir de présenter, si besoin est, Pierre Bordage, que beaucoup ici, sans doute la majorité, sinon la totalité, connaissent bien. En quelques mots, Pierre Bordage, c'est une quarantaine de romans publiés, c'est une trentaine de nouvelles, c'est beaucoup d'activités aussi au sein des festivals, et notamment ici des Utopiales. Pierre a été président des Utopiales pendant une dizaine d'années, 11 ans je crois. Donc on peut dire que Pierre Bordage est immergé, il est tombé dans le chaudron, mais on verra à quel moment exactement, peut-être pas de la science-fiction, mais de l'imaginaire, et on verra un petit peu comment lui-même conçoit son œuvre et conçoit sa manière de travailler. On va lui demander un petit peu comment il a découvert un petit peu le monde de l'imaginaire, et notamment le monde des mythes, la mythologie classique, ou les mythologies, les sagas, etc. Voir un petit peu comment ses premières années ont façonné un petit peu sa personnalité, d'un côté un peu mystique, et comment, d'une certaine façon, un peu sur le tard, on peut le dire, tu parles de jaillissement, hein, pour dire ce moment où, d'un seul coup, tu as sorti des milliers de pages... dans les années 80, pardon. Et comment, en une quinzaine, une vingtaine d'années, tu es devenu l'un des grands maîtres, on peut le dire, de l'imaginaire contemporain. Donc, j'aurais envie de te demander d'abord comment tu peux faire un résumé, disons, de ton milieu, de tes premières années par rapport à ton œuvre actuelle.
Waouh. Bonjour. Je suis né dans un milieu qui était très prédisposé à la science-fiction, parce que c'est un milieu paysan, hein, tout simplement, et que même le mot science-fiction ne devait même pas être connu du tout. En revanche, le fait d'être né dans une ferme est isolé. Je pense beaucoup concouru à développer mon imaginaire. Ensuite, mon premier contact avec l'imaginaire, c'est, comme tu l'as dit, les mythologies, puisque j'avais un parrain qui m'offrait à chaque Noël quasiment une encyclopédie des mythologies, donc des mythologies du monde entier. C'est une collection blanche et dorée là, de chez Larousse, peut-être, je ne sais plus, et qui racontait les mythologies du monde. Et ça, c'était mon premier contact avec l'imaginaire. Et j'ai trouvé un effet en lisant les mythologies, que j'ai retrouvé après dans la science-fiction, mais on en parlera plus tard, qui est un effet vertige, c'est-à-dire qu'en lisant une mythologie, je me trouvais transporté immédiatement dans un ailleurs. Voilà, c'était sur l'Olympe, c'était en Afrique, c'était en Inde, c'était le Ramayana, c'était ce genre de récits. Et ces récits-là, ils avaient cette vertu de me transporter tout ailleurs, de me faire un saut dans l'espace-temps immédiat, et un effet que j'ai toujours adoré d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire, en quelques lignes, c'est décoller de son présent pour partir ailleurs. Donc ça a été le premier contact avec l'imaginaire. Ensuite, j'ai eu ma scolarité, normale, avec une sorte de... un attrait pour l'écriture déjà que j'avais, je pense, en primaire, mais que j'ai perdu dans les années collège et lycée, parce que tout ce qui est écriture analytique me déplaît énormément. Je déteste ça, donc j'ai perdu de vue le plaisir de raconter des histoires que j'avais petit en école primaire. Il a fallu donc pour moi le pivot de tout ça, enfin là où tout s'est réuni, c'est la première année d'université à Nantes en 1974, ce qui ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas ? En 73, j'étais en première année de fac de lettres à Nantes, et j'ai un professeur en cours de littérature comparée qui nous fait science-fiction de l'âge d'or américain. Et donc, mon premier livre de science-fiction, je l'ai lu à l'université. Avant, j'ignorais même aussi le terme, hein, je ne savais pas trop ce que c'était que la science-fiction. et je découvre Chronique martienne de Ray Bradbury, mon premier livre de science-fiction et mon premier coup de cœur. Et cet effet que je ressentais en lisant les mythologies, je l'ai immédiatement ressenti en lisant Chronique martienne. C'est-à-dire que un auteur contemporain était capable de me prendre en tant que lecteur et de m'emmener aussi loin en quelques lignes que les mythologies. Et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est la littérature qui me convient. Donc je me suis mis à lire des romans de science-fiction avec toujours cet effet vertige que je recherche énormément. Et voilà, c'est comme ça. Et cette première année de fac a aussi été un autre pivot dans le sens où il y avait un atelier de création littéraire avec un prof qui était un petit peu barjot, il faut reconnaître, et qui nous disait, moi je m'en fous de ce que vous écrivez, je veux que vous noircissiez des pages, et d'ailleurs je vous note au nombre de pages. Quoi qu'il y ait sur la page, je m'en fous. Donc c'est un principe un peu bizarre, mais ce principe bizarre fait que, vous savez, quand vous êtes étudiant, vous faites toujours les choses au dernier moment, c'est à 3h du matin pour le lendemain, et que quand on se met à écrire à 3h du matin pour le lendemain, ben, on écrit un peu n'importe quoi, et du coup ça devient de l'écriture automatique, et du coup ça fait sauter peu à peu le bouchon posé par l'éducation nationale à propos de l'écriture. Et donc le bouchon a sauté, et d'un seul coup, j'ai retrouvé le plaisir de raconter des histoires en me disant que mon écriture, au début, qui était complètement surréaliste et instinctive, est devenue de plus en plus structurée au point que ça formait des histoires et que j'ai redécouvert ce plaisir de raconter des histoires et que comme je découvrais la science-fiction en même temps, ça fait beaucoup de « si, beaucoup de « com », et comme je découvrais la science-fiction en même temps, et ben, tout de suite, mes histoires, mes petites nouvelles que je faisais ont été des histoires de science-fiction. Et en plus, on se lisait les uns les autres pendant le cours de l'atelier, ce qui nous donnait des grosses crises de rire quand même. Mais c'était très intéressant, tout ça. C'était vraiment le cours que je préférais, le seul cours que j'ai jamais raté en fac. Tous les autres, je les ai allègrement ratés. Mais bon. Et voilà. Et donc, j'étais contacté avec l'imaginaire, la science-fiction que je découvrais, recontacté avec le plaisir de l'écriture par le biais de cet atelier. Et donc, j'ai 18 ans, 19 ans, j'ai écrit un bouquin, forcément. Bon, un bouquin dont personne n'a voulu, heureusement. Donc j'ai écrit en deuxième année de fac un bouquin, un roman complet que j'ai retrouvé par miracle il y a quelques temps d'ailleurs. Il manque 40 pages, mais voilà. Et je l'ai relu et c'est très mauvais. Ce qui ramène à l'humilité aussi, c'est pas mal. Et puis, le temps a passé, à moins que tu aies d'autres questions par rapport à cette période-là.
Non, c'est parfait pour moi. Hein.
Le temps a passé. Voilà, il a fallu que je travaille, etc. J'ai fondé une famille et tout. Et il se trouve qu'à l'âge de mes 30 ans, j'avais un petit peu de temps devant moi et j'ai été pris d'une envie d'écrire. Voilà. Le matin, je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose. Et donc, je me suis lancé dans la rédaction sur un cahier parce que l'informatique, à l'époque, ça n'existait pas. Et je me suis lancé dans Les Guerriers du Silence. J'ai écrit sur un cahier le premier tome des Guerriers du Silence pendant 6 mois. J'ai fait que ça. Et au bout de 6 mois, j'avais plus d'argent. Donc il a fallu que je retravaille. J'ai essayé de faire publier ce livre à droite, à gauche, et personne n'en voulait parce que, après, on pourra peut-être revenir là-dessus, mais on était dans un état de la science-fiction française qui était un peu sinistré à ce moment-là. Et donc j'arrivais avec un roman, un gros roman dont personne ne voulait parce que les auteurs français étaient confinés dans des collections spécialisées, très petites, en poche, Fleuve Noir principalement. Et donc, j'ai mis 8 ans à faire publier ce roman, tout en exerçant différents boulots à côté. Et puis, je raconte l'anecdote avec Patrick, parce que je ne sais pas s'il n'est pas dans la salle. S'il dort, si Patrick, tu dors dans la salle
Non, on l'entendrait. Non, non.
Oui, on nommait, c'est vrai, on t'entendrait. Je travaillais à ce moment-là à Paris, et je descends en Virginie, aux Champs-Élysées, et je travaillais en face, en fait. Je travaillais au-dessus du pauvre Renault, j'étais journaliste à l'époque. Et je vois des bouquins très jolis avec un auteur que j'aime beaucoup, Orson Scott Card, et un éditeur que je ne connaissais pas, La Talente. Et le traducteur de Orson Scott Card est Patrick Couton, qui était mon professeur de banjo quand j'étais étudiant. Donc la boucle était bouclée. Donc je l'appelle, je lui dis « Salut Patrick, tu te souviens de moi ?»« Ah ouais, le Vendéen, parce qu'il m'appelle le Vendéen. Ouais. » C'est une sorte de mépris, hein, pour les Nantais. Et donc, voilà comment le manuscrit s'est retrouvé à La Talente et que La Talente a décidé de le publier. Et donc l'aventure est partie à ce moment-là, surtout que Pierre Michaud, éditeur à l'époque de La Talente, m'a dit évidemment, tu as prévu un cycle en 3 volumes. Oui, bien sûr. Ouais. Faut jamais qu'on travaille un éditeur qui est bienveillant comme ça. Et donc j'ai dit oui, il me dit je te signe le contrat pour les 2 et 3. Et donc voilà, je me suis retrouvé à. En fait, quand j'ai relu le manuscrit des Guerriers du Silence, qui avait été écrit donc sur le cahier, que j'avais retapé après, parce que l'informatique est arrivée en ce temps, enfin l'informatique c'est un grand mot pour décrire un Amstrad PCV 8256, ces genres de trucs, prise de tête et crise de nerfs assurée. Et donc, j'avais tout recopié. Et quand j'ai lu le manuscrit, 8 ans après, je me suis dit, oh là là, le nombre de défauts, je voyais que des défauts. Donc j'ai dit, ah, d'accord, mais je réécris tout, de A à Z. Donc j'ai réécrit tout le premier tome. Et puis après, je me suis attelé au tome 2 et 3. Puis en même temps, il y a les Roel qui sont arrivés en ce moment-là, avec les presses de la Cité qui m'avaient proposé de faire une série. Et donc, en 92, je me suis lancé dans l'aventure professionnelle de l'écriture.
Bon, c'est tout à fait clair. Tu es un peu le résultat de toutes ces années de galère, quelquefois.
Hein. Ouais.
Je pense que c'est assez encourageant pour certains ou certaines qui noircissent peut-être quelques cahiers d'écoliers. Ne les jetez pas. Tout est possible. Et peut-être vous ferez comme Pierre qui, on pense qu'il a vendu aujourd'hui 900 000 exemplaires de ses œuvres à travers le monde. Donc vous voyez, tout est possible. Je crois qu'il y a quelque chose d'important aussi dans ta vie, dans ces années. Je crois que c'est le rôle des voyages.
Oui, tout ça a été rythmé évidemment par des recherches personnelles et puis le goût de l'aventure et beaucoup de recherches en fait. Alors, on va faire un retour en arrière. Il y a un aspect qui est très important dans ma vie, qui est l'aspect spirituel. Personne ne s'en va au courant, c'est bon. Surtout après une conférence scientifique, c'est dur de passer. Donc spirituel, ça veut dire une recherche intérieure forte pour, je pense, au début, trouver un sens à tout ça. Maintenant, l'interrogation a un petit peu changé, mais au début, c'était vraiment cette idée-là. Donc ce qui m'a valu aussi des crises mystiques quand j'étais gosse et qui m'a valu aussi 4 ans de séminaire. Et du coup, 4 ans de séminaire, c'est parfait pour vous dégoûter à jamais des religions. C'est-à-dire que pour moi, la spiritualité ne cadrait pas du tout avec ce qu'on est tenté de m'enseigner au séminaire, qui était la vision dogmatique de la spiritualité qui m'intéresse vraiment pas du tout. Enfin, contre lequel je m'élève assez vivement d'ailleurs dans la plupart de mes bouquins. Donc cet aspect-là est important. Donc je suis ressorti du séminaire dégoûté à jamais des religions, voire en colère contre les religions. Mmh. Et il se trouve que la faveur d'un voyage en Inde ensuite, donc j'avais 20 ans, j'ai redécouvert l'aspect spirituel libre là-bas. Donc c'est un pays extrêmement mystique, hein, certains d'entre vous sont allés là-bas. Il y a quelque chose d'assez étonnant dans l'atmosphère qui m'a recontacté avec ma recherche fondamentale. Et c'est dans ces voyages-là que j'ai... dans ce voyage-là que j'ai reconnu... Parce que j'ai retrouvé un carnet que j'ai écrit à l'époque. Et c'est à l'occasion de ce voyage-là que j'ai redécouvert l'aspect mystique des choses et l'aspect spirituel qui était la recherche de la spiritualité libre. C'est-à-dire en dehors de tout dogme. Et ça a aussi beaucoup marqué tous mes livres. On le retrouve dans Les Guerriers du Silence et dans le premier livre que j'ai écrit et dans la plupart de mes autres livres. Et ce sont ces voyages-là, enfin ces contacts-là avec d'autres civilisations, d'autres approches sociales, d'autres approches spirituelles, qui m'a permis aussi d'explorer, comme l'écriture d'ailleurs, je ne sais pas, on pourra en parler, ce que c'est que pour moi l'écriture, c'est une exploration de l'âme humaine en fait. Et donc j'avais tous ces éléments pour explorer l'âme humaine, parce que je ne suis pas intéressé du tout par la pensée matérialiste. Pour moi, la pensée matérialiste est désespérante. Et ça ne m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, peut-être que j'ai tort et je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir une autre relation au monde. C'est-à-dire pas simplement une relation de phénomène ou d'objectivation ou d'objectivisme, je sais pas, des phénomènes, mais vraiment une relation personnelle au monde. C'est ça qui m'intéresse. Je pense que le propos d'un auteur, c'est justement d'exposer une relation personnelle au monde. Enfin, à mon avis, après, on pourra en discuter. Donc voilà, les voyages ont aussi contribué à former. J'ai étudié un peu les philosophies orientales. Je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose là qui n'existe plus dans la religion chrétienne, qui existe par ailleurs, hein, qui est le courant mystique que j'ai redécouvert après. Mais c'est par le biais des philosophies orientales qui sont l'hindouisme, le taoïsme et tout ça que j'ai commencé à redécouvrir un peu l'aspect spirituel qui me plaisait, que j'ai toujours cherché en fait, et que j'ai trouvé, c'est là où toutes les boucles se bouclent, que j'ai retrouvé dans la mythologie. Enfin, dans la mythologie, pour moi, ce sont des boutons qui appuient sur l'inconscient pour simplement l'évolution, quoi. Donc tout ça a donné de la science-fiction, globalement, alors que le mot science paraît relativement absent des choses. Mais ça, pourquoi la science-fiction? Et puis après, je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans la science-fiction? Parce que mystique, expérience spirituelle, enfin tout ça, quel rapport avec la science-fiction ? Et après, en réfléchissant et en analysant, je me suis dit, il y a un intérêt à la science-fiction. La science-fiction présente un intérêt triple, à mon avis, qui est celui d'abord de proposer un merveilleux voyage, dont le fameux effet vertige dont je parlais au début par rapport aux mythologies et aux genres, c'est-à-dire c'est le genre qui vous décolle du réel. Deuxièmement, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que vous êtes décollé du réel, c'est pour mieux vous rapprocher du réel. En fait, le saut dans l'espace-temps permet peut-être une meilleure approche du réel, parce qu'une approche distanciée. Quand on est en plein dans le réel, on a un petit peu de mal à s'en sortir. Et finalement, il n'y a qu'une littérature qui parle du présent, c'est la science-fiction, parce que toutes les autres formes de littérature parlent du passé, tout le temps. C'est-à-dire, si vous parlez le grand modèle de littérature que j'étudie à la fac, d'ailleurs, qui est proustien, c'est toujours du passé, ce sont des souvenirs, quoi. Et pour parler du présent, il faut se projeter dans l'espace-temps. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Et donc, enfin, c'est pas un dogme, hein, je vous dis ça comme ça, c'est ce que je ressens. Le saut espace-temps indispensable pour mieux étudier un peu ce qui traverse le présent, tous les courants qui traversent le présent. Et puis le troisième aspect, et là qui rejoint l'aspect mythologique, qui est l'interrogation fondamentale, donc philosophique, de l'être humain par rapport à son monde. Un petit exemple, mythe de Gilgamesh. L'un des premiers récits, mythe sumérien, qui raconte l'histoire de l'immortalité, enfin qui raconte la quête de l'immortalité.
Et l'échec.
Ouais. Parce qu'il se fait voler par un serpent.
Il y a toujours un serpent dans le coin, de toute façon. Et donc l'homme ne peut pas atteindre l'immortalité.
Et c'est un thème extrêmement science-fictif. Enfin, dans beaucoup d'ouvrages de science-fiction, il y a ce thème de l'immortalité qui est posé. Donc on rejoignait la science-fiction me paraissait être un genre qui rejoignait les grandes interrogations métaphysiques. Il paraît que c'est un gros mot. Personne, métaphysique. Qui ont toujours traversé l'humanité. Voilà. Et c'est, je pense, le genre parfait pour illustrer, et puis aussi la grande interrogation, il y a une conférence samedi prévue là-dessus, sur le temps. Le temps en tant que prison, en tant que flèche du temps, etc. Donc, cet ensemble-là fait que la science-fiction est un genre extrêmement riche et probablement le plus riche de tous les genres parce qu'il associe tous ces éléments-là. Et on a beau faire et dire et chercher, il n'y a dans aucun autre genre où on réussisse à associer ces quatre éléments, ces trois, quatre éléments.
C'est ce qu'on pourrait appeler justement la dimension mythique de la science-fiction.
Oui, exactement.
C'est un aspect qui n'est pas assez creusé en général par l'historiographie du genre. Qui, en fin de compte, est un genre curieux dans la mesure où il semble intemporel, où il semble réactiver des anciennes croyances, des anciennes sagas, des panthéons qui semblent défunts, et puis qui, en fin de compte, est en prise indirecte, je dirais, avec la société, ou quelquefois même en prise directe.
C'est
peut-être ça, justement, cette ambiguïté, cette ambivalence qui est si fertile pour la science-fiction.
Je pense aussi, oui. Tout ce que tu décris là, à la fois ce côté qu'on rejoint les interrogations éternelles qui reviennent à chaque instant, puis avec une pincée de présent, justement, les courants qui traversent le présent, plus cet attrait du merveilleux, finalement, parce qu'il y a aussi l'attrait du merveilleux, c'est qu'on est projeté dans l'ailleurs, donc forcément c'est un voyage extraordinaire, au sens où le définissait Jules Verne, quoi, le nouveau voyage extraordinaire, et tout ça fait sa richesse, c'est un espace de créativité qui est quasiment infini. Mmh. Avec aussi ses propres contraintes qui sont celles de la cohérence, etc. Mais bon, après, on peut jouer avec ça. On en a parlé ce matin sur les contraintes scientifiques. J'ai découvert aussi la contrainte scientifique après, puisque c'était des ouvrages de science-fiction et pas de fantasy. Donc, il y avait un aspect science-fictif, un aspect respect des lois communément admises. Mais au-delà de ça, de ce socle-là scientifique admis ou reconnu, il y a quand même une grande possibilité d'invention, et justement avec tous ces éléments-là qu'on peut associer, combiner de façon plus ou moins d'ailleurs forte selon les genres, les sous-genres qu'on aborde.
Tu définis très bien en fin de compte ton originalité par rapport au mainstream de la science-fiction, c'est-à-dire que en fin de compte, c'est pas l'extrapolation scientifique qui t'intéresse immédiatement. C'est plutôt les personnages, c'est plutôt une intrigue, c'est plutôt une lame de fond de l'imaginaire. Et ensuite, parce qu'il faut tout de même raccrocher les wagons, il faut tout de même une dimension scientifique ou technologique, mais qui vient après.
Oui, alors pour moi, la technologie dans la science-fiction est principalement un décor, c'est-à-dire c'est une obligation. Ce matin, je parlais des romans historiques avec une sorte d'obligation de cohérence historique, c'est-à-dire qu'il y a des archives qui existent et qu'on est obligé de respecter si on veut donner de la crédibilité à un récit historique. C'est-à-dire qu'un récit historique, on ne peut pas faire n'importe quoi simplement parce qu'il y a des archives existantes et que vous allez vous faire aligner par n'importe quel historien qui passe dans le coin. Il va vous dire que ce n'est pas comme ça que c'était. Et donc, vous nuisez complètement à la crédibilité du roman. Pour moi, la science dans la science-fiction est exactement de cet ordre-là, c'est-à-dire ce sont des archives historiques du futur, en quelque sorte, et avec une espèce de crédibilité. Donc tout ce qui est connu, tout ce qui va être déjà archivé sur notre plan, qui n'est pas forcément juste d'ailleurs, hein, parce que souvent des lois scientifiques sont contredites par d'autres lois, je m'efforce de respecter. Et au-delà de ça... un auteur de science-fiction déterre des archives du futur en essayant d'être le plus cohérent possible et le plus rigoureux possible. Il y a une notion de rigueur dans l'imaginaire qui est très très importante. Et je pense que plus on part dans le space opéra, dans les grandes sagas galactiques très imaginaires, et plus il y a une obligation de rigueur, quoi. On ne peut vraiment pas faire n'importe quoi. Et principalement, il y a une sorte de fascination, je pense, de l'auteur de science-fiction qui est l'invention de mots, de vocabulaire. C'est-à-dire c'est quasiment la création, une démiurge de langue, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, c'est-à-dire la création d'une sorte de langue, une nouvelle langue. Et je pense qu'elle est très... cet aspect-là est essentiel parce que tout passe par le mot. Et dans le mot, aucun mot ne doit apparaître gratuitement dans un texte. Le mot, il a son histoire. Et encore une fois, ce que je disais par rapport au roman historique, quand vous prenez un dictionnaire... Vous allez dans l'étymologie des mots et les mots vous racontent l'histoire humaine, tout simplement. Et donc, quand vous projetez dans le futur, avec invention des mots, ça doit aussi raconter l'histoire humaine et qu'aucun mot n'est gratuit. Enfin, j'essaie de faire en sorte qu'aucun mot ne soit gratuit dans un ouvrage qui se passe dans le futur. C'est un aspect aussi très, très important, je pense, parce que les mots véhiculent des choses, véhiculent leur propre mythe, hein, finalement. J'ai toujours été fasciné par l'histoire de la truie. Le mot truie, c'est pas un mot qu'on emploie, qui vient de cheval de Troie, tout simplement parce que par analogie avec le nombre de petits qui sortent du ventre de la truie, donc ça fait un grand nombre, comme il y a des guerriers grecs sortis du ventre du cheval de Troie en grand nombre. Et ça a donné le mot truie. Et ça, ça vous raconte l'histoire humaine, ce genre de truc. C'est à la fois le mythe, à la fois l'histoire, enfin plein de choses. Donc c'est passionnant aussi, cet aspect-là, moi, de la science-fiction, m'intéresse énormément, puisque le mot, c'est l'outil, et que l'outil doit être le plus juste possible. C'est pour ça que je ne mets jamais de lexique dans un de mes romans. Je déteste être obligé de recourir à un lexique et d'interrompre sa lecture pour aller vérifier ce que veut dire un mot. Et j'essaie de faire en sorte que le mot, même s'il n'est pas compréhensible d'emblée, soit compréhensible dans son contexte. D'accord. Je ne sais pas si j'y réussis toujours, mais j'essaie en tout cas.
C'est important de rappeler qu'il y a une rigueur de l'imaginaire, parce que les gens croient en général que l'imagination ou l'imaginaire, c'est la fée du logique, c'est à peu près n'importe quoi. Oui. Or, en fin de compte, rien n'est plus rigoureux que l'imaginaire, oui. Surtout qu'on étudie l'histoire de l'imaginaire, qui a partie liée d'ailleurs avec l'histoire des mythes.
Hein. Oui, oui.
Et en fin de compte, peut-être une des faiblesses de la science-fiction trop scientifique, c'est peut-être de trop se polariser sur une découverte scientifique qui risque d'être assez fugace, en fin de compte.
Oui, oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut... pour moi aussi, dans la façon dont je travaille les récits de science-fiction, c'est de la littérature héroïque pour moi. C'est de la littérature d'initiation, quelque part. Enfin, il y a un parcours initiatique du personnage. Je pense que le personnage doit être changé de la même façon que le lecteur. Alors ça, c'est hyper immodeste, hein, ce que je vais dire, mais j'écris toujours en ayant au moins au fond de moi la volonté, c'est même pas la volonté, c'est l'aspiration à ce que le lecteur ait changé quelque chose en lui à la suite de la lecture d'un roman. C'est-à-dire, je ne donne pas de solution, parce que qui pourrait prétendre donner des solutions, mais au moins déplacer le point de vue de quelques millimètres, et ça me suffit largement, parce que je pense que c'est ça les récits d'imaginaire, c'est apporter un regard différent sur un sujet ou sur quelque chose.
Tu es en général répertorié comme écrivain de science-fiction, tu le revendiques d'une certaine façon, mais quand on regarde bien ton œuvre, en fin de compte, tu es beaucoup plus à l'aise avec un genre comme la fantasy, hein, c'est-à-dire un terme très vague, il faut bien le dire, qui renvoie à toute l'histoire de l'imaginaire, hein, au merveilleux, etc. Tout ce qui échappe justement au matérialisme, au réalisme, à l'aspect clinique de la réalité. Et je me demandais si, en fin de compte, ton passage assez rapide, en fin de compte, immédiat à la fantaisie, n'est pas une manière aussi d'être fidèle à ta conception de l'imaginaire.
Ah, ouais. Déjà, pour certains de mes livres, on a parlé de science-fantaisie, comme ça. Ça a regroupé le tout. Donc, il y a une sorte de courant qui s'appelle la science-fantaisie, où il y a effectivement des éléments de fantaisie dans des romans de science-fiction. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Enfin, quand j'ai écrit Les Guerriers du Silence, je ne savais pas que j'étais en train de faire du space opéra. Je ne savais pas qu'il existait un sous-genre qui s'appelle le space opéra. Je ne savais pas qu'il y avait des éditions spécialisées en science-fiction. Enfin, j'ignorais totalement tout du milieu de la science-fiction. Ce qui m'intéressait, c'est de faire un récit qui, à la fois, entraîne le lecteur dans une sorte de parcours et qui aborde des sujets qui me sont chers, qui sont ceux, comme je vous disais tout à l'heure, de la spiritualité, de la possibilité à l'être, de l'évolution, enfin, etc. quoi. Je suis fondamentalement convaincu que l'homme a une dimension divine, une dimension mystique. Je ne sais pas le prouver. En tant qu'auteur, j'ai un privilège d'explorer en toute liberté l'inconscient humain. Et c'est ce que je cherche, parce qu'encore une fois, la pensée matérialiste pure ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que tout ce qui est fini, enfin, causalité, cause et effet, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que nous, en tant qu'esprit, en fait, c'est la question fondamentale matière-esprit, hein, c'est qui a créé l'autre, est-ce que c'est Dieu qui a créé le monde, est-ce que le monde a créé Dieu, voilà, c'est cette question-là fondamentale que je cherche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la part subjective que nous avons par rapport à la matière. Si la matière nous a fabriqués et qu'elle nous rejette un jour, ce n'est pas intéressant, enfin, pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si nous, en tant qu'être humain, en tant que conscience, parce qu'il y a la notion de conscience là-dedans, on est partie prenante avec la matière. Ça m'intéresse. Est-ce qu'on est co-créateur du monde, en fait, en quelque sorte? c'est ça qui m'intéresse. Et évidemment, un auteur est déjà co-créateur du monde, parce qu'avec ces mots, on dit le verbe s'est fait chair, etc. Le mot est quand même chargé d'énormément de puissance, d'ailleurs. Regardez, quand vous lisez un livre, la force d'évocation des mots, rien ne peut la remplacer. Ni aucune image, ni aucun 3D, ni quoi que ce soit d'autre ne peut remplacer la force évocatrice du mot. D'ailleurs, regardez comment des récits, qui sont des récits oraux au départ, traversent le temps, comme l'Iliade et l'Odyssée, enfin ce genre de récits. La puissance du mot, et je pense que d'ailleurs l'avènement du livre électronique va encore, là c'est un pari que je fais, je n'en suis pas sûr, mais va renforcer la puissance du mot, va dégager l'essence même de ce que c'est qu'un texte, c'est-à-dire le mot. Assez de fioritures autour, hein, je veux dire, plaquer des images, plaquer des sons, tout ça, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que chaque lecteur s'empare du texte et en fasse son propre univers. Ça, c'est susciter, quoi. C'est-à-dire, c'est co-créer le monde. Hein. C'est pour ça que je parlais de co-création tout à l'heure. C'est que quand un lecteur lit un texte d'un auteur, il co-crée aussi le monde de l'auteur, quoi.
Il y a encore quelques années, peut-être ces propos aurait été dérangeant. Et je vois encore que tu as des précautions oratoires pour dire, je vais employer certains mots comme métaphysique, etc. C'est vrai que le milieu de la science-fiction nous a contraints à une certaine forme de timidité. C'est vrai que par rapport aux écrivains, surtout français, il faut bien le dire, ils sont assez rationalistes. La plupart sont athées, etc. Tu ne te places pas dans cette mouvance, mais on s'aperçoit que chez les anglo-saxons, par exemple, il y a énormément d'auteurs qui sont croyants ou qui ont d'autres options, la spiritualité, par exemple. Il faut bien le rappeler aux gens, c'est que la science-fiction, ce n'est pas simplement de la hard science. La science-fiction, c'est aussi Dune de Herbert.
Oui. C'est un de mes modèles, d'ailleurs.
Voilà, donc c'est aussi Star Wars, hein, avec ces mondes qui sont, il faut bien le dire, des mondes mythiques. Oui. Voilà. Et d'une certaine... comme Jules Verne, dont on nous bassine sans arrêt le poids extraordinaire, c'est vrai. Mais en fin de compte, Simone Vierne, par exemple, a très bien montré que toute l'œuvre de Jules Verne était initiatique. Il n'y a pas un seul de ses livres
qui ne soit pas.
Exactement. Donc, en fin de compte, on a très, très mal compris. Peut-être le même travail serait-il à faire avec Wells, dont on parlait ce matin, ou d'autres, ou Rosny, ou d'autres gens comme ça. On s'aperçoit que chez Rosny, c'est le cas. C'est quelqu'un qui est à la fois scientifique et en même temps quelqu'un qui est, faut bien le dire, illuminé dans le bon sens du terme. Donc, ce n'est pas obligatoire, si on écrit de la science-fiction, de se retrouver dans un cadre ultra-rationnel.
Jusqu'à Michel Jury, qui passait pour un auteur rationaliste à ses débuts et qui m'a écrit un jour en disant « Voilà, j'aime beaucoup ce que vous dites, parce que j'ai la même recherche, etc. » Donc, je pense qu'à un moment, la pensée rationnelle, elle a des limites.
Ça serait le cas aujourd'hui.
Ouais.
Les signes sont là aujourd'hui, que les gens recherchent quelque chose d'autre, le meilleur ou pour le pire d'ailleurs.
Mais parce que après, le matérialisme est une valeur qui, je pense, conduit à la cendre et à la poussière. On en a vite fait le tour et après on peut décortiquer le matérialisme, on peut rentrer de plus en plus profondément dans la matière, c'est-à-dire étudier les atomes, puis le monde subatomique, puis ceci, puis cela. Les questions fondamentales ne seront jamais abordées finalement par cet angle-là, parce que c'est un peu le monde aristotélicien, c'est-à-dire c'est le monde de la division, c'est-à-dire qu'on divise de plus en plus pour étudier, et moi je préfère le monde d'Héraclite qui est celui d'englober le paradoxe, vous voyez, le monde taoïste aussi, tout est paradoxal et on englobe le tout, ouais, ça m'intéresse.
Tu devances ma prochaine question, je voulais pas terminer parce qu'il nous reste heureusement un peu de temps, mais en fin de compte, tu parles d'histoire, tu racontes des histoires, mais tes histoires, c'est de l'histoire aussi avec un grand H, c'est-à-dire des ères historiques, des périodes. Il est évident que là, tu es conscient de rompre aussi avec une tradition, celle du progressisme, par exemple, classique, dans lequel on vit, nous autres Français, depuis le XVIIIe siècle. Est-ce qu'en fin de compte, tu ne suis pas une autre voie qui, il faut bien le dire, continue d'exister, mais jusque-là marginalement, qui est celle de l'éternel retour?
Ça doit être mon côté vendéen, ça, tu sais. C'est celui qui a refusé un petit peu la lumière imposée par les fusils.
Non, c'est un breton qui te pose la question.
Ouais, c'est ça. Par rapport à la quête d'immortalité dont on parlait tout à l'heure, le mythe de Gilgamesh, tout ça, on s'aperçoit que finalement, nous sommes prisonniers du temps et que nous ne pouvons pas nous échapper du temps. Et que même si on l'étudie de toutes les façons, etc., on est poussé toujours dans la même direction. Il y a une autre forme de... Il y a une notion de substitution qui est l'éternité. Vraiment, une des questions fondamentales pour moi, la différence entre immortalité et éternité. L'éternité, pour moi, le fait de le vivre. On peut le vivre à chaque instant. Mais pour ça, il est évident qu'on doit se décoller de la pensée matérialiste, c'est-à-dire qu'on ne doit pas épouser, je ne sais pas si je vais le dire bien, parce que c'est une notion assez abstraite. Je vais reprendre la phrase d'Angelus Silesius, qui est un mystique du 13e, je crois, 14e, je crois, et qui dit « Dieu est un éternel présent ». Voilà, c'est ça qui est important, c'est de vivre en permanence l'éternité de l'instant. Et je pense que... je ne sais pas si c'est ça que tu appelles l'éternel retour, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est vivre en permanence le monde comme s'il était un, et là, et maintenant, et toujours.
Ouais, donc ce que je veux dire par là, c'est les cycles tout simplement de l'humanité. C'est un peu Nietzsche, c'est un petit peu...
Danseur de cordes, au-dessus de l'abîme.
Voilà, donc d'une certaine façon, et ça c'est le côté tragique de l'éternel retour, c'est que on se place, on est confronté à une réalité qui est répétitive et qui est souvent tragique.
C'est ce qui m'a beaucoup plu d'étudier dans la Révolution française, quand j'ai fait le cycle de l'enjeu mineur.
L'enjeu mineur, bien sûr.
Voilà. Je suis allé sans trop d'a priori, même étant vendéen, et donc ayant quand même pas mal de comptes à régler avec la République. En fait, pourquoi je suis venu dans l'enjeu mineur? Parce que l'enjeu mineur, pour moi, c'est une histoire qui était portée par les gens de ma famille. Cette espèce de modestie forcenée, cette espèce de façon de raser les murs, de faire en sorte que rien n'apparaisse, que rien ne transparaisse, que ce soit l'effacement total. Je me suis dit, ça, on dirait le prolongement d'une période historique, une sorte de traumatisme qui est resté dans la mémoire d'une population et qui s'efface elle-même parce qu'on a voulu l'effacer. Et je me suis toujours promis qu'un jour j'irais voir dans cette histoire pourquoi est-ce que les gens de ma famille, mes ancêtres et tout ça, avaient cette volonté, enfin c'est pas de volonté, cet inconscient d'effacement. Pourquoi ils s'effaçaient, quoi. Et donc je suis allé dans la période de la Révolution française et des guerres de Vendée, qui sont présentées dans les Larousse historiques du 19e comme étant une sorte de brigandage généralisé, enfin bon, bref.
Ça évolue.
Et après, je suis rentré dans la Révolution avec. J'avais des a priori d'écolier, parce que la Révolution, c'est notre vache sacrée, donc évidemment, tout est beau, tout est merveilleux. Voilà, c'est liberté, égalité, fraternité. Et je me suis rentré dans cette période en ayant des historiens des deux bords, c'est-à-dire des historiens vendéens qui sont vraiment archi contre la Révolution, et puis les robespierristes, comme certains historiens, je ne sais plus les noms. Et. Bon, je me suis mis au milieu, je dis, je vais avancer dans ce milieu-là, voir un petit peu ce que c'était que la période. Et en rentrant dans la période, je suis rentré dans la période de la Convention, et je me dis, voilà, dans la Convention, il y a un mécanisme à l'œuvre. Et c'est peut-être ça que tu appelles les canaux de retour, c'est-à-dire une sorte de mécanisme qui reprend les hommes et qui les conduit à faire les mêmes excès. Et dans la Révolution, c'est particulièrement spectaculaire, puisque c'est une sorte de concentré pendant 3 ans de toutes les horreurs qu'on est capable de faire au nom d'une idéologie. Donc c'est la naissance de l'idéologie. C'est la naissance de l'extrémisme, du terrorisme. Hein. Terrorisme, ce qu'on appelle terrorisme maintenant, c'est né dans la. Le mot existe depuis la Révolution française, il a été créé par la Révolution française. Et c'est tous les excès auxquels on sera confronté au cours du XXe siècle, c'est-à-dire par idéologie. D'ailleurs, Lénine était un admirateur de la Révolution. Pas mal de théoriciens des révolutions sont des admirateurs de la Révolution. Et donc, les mêmes mécanismes conduisent aux mêmes effets, c'est-à-dire à l'extermination massive. Et c'est ça qui m'a fasciné, c'est qu'au-delà des partisans, des partis pris pour ou contre le jacobinisme, pour ou contre les royalismes, on s'en fout, c'est le mécanisme qui est à l'œuvre, qui reprend les humains et qu'on retrouve tout au long de l'histoire et qui est particulièrement spectaculaire dans la Révolution parce que c'est un moment très accéléré de l'histoire. C'est-à-dire que tout, c'est un laboratoire, quoi, et tout devient extrêmement rapide, extrêmement... Et ça, je me suis dit, mais on n'a pas su tenir compte, on n'a pas regardé le mécanisme de la Révolution, on en a fait soit un idéal, soit une exécration, mais en aucun cas on a étudié ce qui était à l'œuvre et qui aurait pu éviter un grand nombre de génocides au XXe siècle. Et c'est peut-être ça que tu appelles l'éternel. C'est peut-être ça aussi la science-fiction, c'est-à-dire que ça reprend ces mécanismes-là, ça les projette plus ou moins dans le futur, et on voit, on étudie les mécanismes à l'œuvre. Ça, c'est fondamental pour moi.
Mais c'est évidemment le côté tragique des cycles, c'est que malheureusement, une tragédie comme la Shoah peut en fin de compte revenir un jour.
Exactement, j'en suis persuadé. Alors,
non, mais ce n'est qu'une une hypothèse. Il n'y a pas eu d'ailleurs que la Shoah comme tragédie, il y en a eu beaucoup. Mais celle-là, c'est tout de même une des pires de l'histoire. Donc, c'est aussi donc être confronté, ce que je disais, à cette vérité tout à fait dérangeante et que beaucoup de gens aujourd'hui aimeraient occulter. Je me trompe ou depuis une dizaine d'années dans ton œuvre, je vois une double direction qui peut sembler d'ailleurs tout à fait contradictoire, davantage de mysticisme et peut-être davantage de noirceur, de pessimisme. Est-ce que je me trompe?
Je vieillis. Alors la noirceur, on m'a beaucoup reproché la noirceur de certains de mes bouquins en disant voilà, là, le monde que vous décrivez c'est quand même waouh, c'est pas drôle quoi. Et à ça je réponds une première chose qui est c'est à la fin d'un livre qu'on juge du pessimisme ou de l'optimisme d'un auteur, c'est-à-dire est-ce que l'auteur ouvre une porte, est-ce qu'il apporte une sorte d'espérance à la fin du livre ou bien est-ce qu'il referme la porte en disant il n'y a pas d'espoir et c'est comme ça, et vous n'avez plus qu'à aller vous suicider dans la Loire ou quelque chose comme ça. Donc moi, je pense que c'est un auteur optimiste dans la mesure où il me semble, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas jamais avoir fini sur une fin purement pessimiste.
Même Absalon.
Même Absalon, mais surtout Absalon. Absalon est un livre de rédemption pure. Je suis parti avec le pire personnage imaginable, c'est le tueur en série, celui qu'on juge, celui qu'on condamne, qui se retrouve dans un pénitencier au départ. Et je me dis, est-ce que je suis capable d'aller avec ce personnage jusqu'au bout? Est-ce que je suis capable d'aimer ce personnage? Est-ce que je suis capable de le rendre aimable? Est-ce que quelqu'un est capable de l'aimer dans le livre? Et oui, il y a quelqu'un capable de l'aimer dans le livre, qui est Elula, une très belle jeune femme d'une peuplade très religieuse. Et c'est la rencontre, le regard d'amour qu'une femme porte sur ce personnage va l'emmener vers sa rédemption. Et c'est le personnage qui m'a probablement le plus ému de toute mon écriture. C'est-à-dire que j'ai pleuré littéralement quand il est... Ah merde, je ne vais pas dire la fin. Quand... Enfin, bon, bref, il m'a fait pleurer pour X raisons. Et voilà, c'est assez rare chez moi que je pleure en tapant les trucs sur mon clavier. Ça fait un peu ridicule, mais c'est dépend de la réalité. Après, le pessimisme, c'est obligé parce que dans ce que je vous disais tout à l'heure sur les trois fonctions de la science-fiction, c'est-à-dire la projection dans l'espace-temps, servant de réflexion et d'avertissement finalement, comme sont les livres Le Meilleur des Mondes, où, donc c'est un livre très noir, mais c'est extrêmement noir Le Meilleur des Mondes de Huxley. 84, c'est extrêmement noir, mais ce sont des avertissements. C'est-à-dire que l'auteur fait cette projection dans l'espace-temps pour dire attention, les courants qui vous traversent là maintenant, qui sont là présents, risquent de donner ça plus tard. Donc je pense que là, les auteurs de science-fiction ont un rôle très important à jouer dans la réflexion. La réflexion sur le devenir social, ça fait partie des charmes, j'allais dire, du genre. C'est-à-dire, c'est des pierres à la réflexion globale, sociétale, que peuvent apporter. Parce que maintenant, on a une science, parce qu'on parle beaucoup de science ici, mais n'oublions pas que la science est souvent couplée à l'économie, et que c'est l'économie qui gouverne la science quelque part, parce qu'il y a toujours des intérêts derrière.
Et donc la politique.
Et donc la politique, donc des choix de société.
Le libéralisme dont tu parles.
Ouais. Par exemple, qui à mon avis est une impasse totale, mais bon, on verra jusqu'où elle nous emmènera. Mais voilà, donc il y a ce vrai rôle. On n'a plus le temps de réfléchir. Les scientifiques eux-mêmes n'ont pas le temps de réfléchir tellement ils sont pressurisés par les intérêts économiques. Et donc, où se trouve l'espace de réflexion, sinon dans la science-fiction actuellement, où l'auteur prend le temps de se projeter dans l'espace-temps pour voir ce que peut donner une évolution. Je me suis beaucoup intéressé aux biotechnologies, par exemple, parce que pour moi, c'est fondamental, la biotechnologie, parce que c'est la chaîne de la vie qui est en jeu, c'est-à-dire, peut-on modifier la chaîne de la vie, jusqu'où peut-on aller, ne joutons pas les apprentis sorciers, parce qu'on dit que tout est sous contrôle, et vous avez vu que récemment, une étude sur les rats OGM, enfin, nourris avec du maïs OGM, controversée l'étude, mais a donné des résultats un peu bizarres. Donc voilà, on n'a plus ce temps de réflexion, et je pense que c'est là, pour moi, par exemple, la biotechnologie, j'ai travaillé dans la chimère avec les fables de l'impur, où ce sont des hommes animaux par un mélange génétique. Et je suis allé voir une scientifique à l'université de Nantes qui travaillait sur le mélange génétique, c'est-à-dire en stade embryonnaire, hein, ce qui est la seule autorisation en France pour l'instant, c'est stade embryonnaire pour tout ce qui est génétique. Et elle mélangeait deux animaux qui étaient les cailles et les poulets, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc elle étudiait la réaction des gènes dans un milieu exogène, hein, c'est-à-dire on met des gènes dans un autre milieu et on voit comment réagissent les gènes. Et je lui ai posé la question à cette scientifique, je lui ai dit, est-ce que si vous aviez, vous, la possibilité de voir votre créature développer normalement, est-ce que vous aimeriez la voir? Elle me dit, évidemment, évidemment que j'aimerais la voir. Évidemment que le scientifique qui veut créer un homme singe ou un homme rat, il aimerait bien voir sa créature, mais il remarque ce que ça donne. Évidemment qu'on y arrivera, parce que si des intérêts économiques se mêlent à ça, évidemment qu'on y arrivera. Donc vous voyez, qui va poser la question de la réflexion là-dessus, sinon les auteurs de SF, quoi.
Le problème de l'utopie, c'est, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas qu'elle n'arrive jamais, c'est qu'elle arrive tout le temps.
Oui, malheureusement. Enfin, le bonheur obligatoire pour tous, c'est la notion la plus dangereuse. Quelle est la notion d'ailleurs de la Révolution française? C'est le bonheur pour tous, le bonheur tel que défini par... certains hommes à un certain moment, ça doit être le même bonheur pour tout le monde, et je ne vois qu'une tête, et toutes les têtes qui dépassent, on les découpe parce que ils sont pas mûrs pour le bonheur quelque part, quoi, vous voyez. Mais ça, c'est des interrogations fondamentales, et c'est un retour dont tu parlais, c'est ça aussi, quoi. On a des nouvelles inventions technologiques qui sont très puissantes, parce que la combinaison des infiniment petits comme le gène et la bit informatique donne une puissance infinie, c'est-à-dire que, et en plus invisible, ou la nanotechnologie, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont à l'œuvre. Et voilà, il faut poser les questions, quoi. C'est urgent de poser les questions. Qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là? Et si on recherche une utopie, c'est une sorte de vie, de quête chimérique de l'immortalité, on va vers des catastrophes, enfin, à mon avis. C'est toujours ce qui s'est passé dans l'histoire.
Ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espoir aujourd'hui. Tu dis, par exemple, dans l'évangile du serpent, que si un homme avec des pouvoirs christiques revenait, je ne sais pas comment on le recevrait.
Mal. Aussi mal qu'on avait reçu l'autre.
Ouais. Oui, il terminerait pareil. Il créerait une nouvelle religion.
Oui, parce qu'il m'avait intéressé dans l'évangile du serpent, c'était une réflexion par rapport justement l'Église catholique et l'apparat de l'Église catholique et la façon de fonctionner de l'Église catholique et les textes qu'elle a elle-même mis en place et qu'elle lit chaque dimanche dans les églises, c'est-à-dire les évangiles, et qui sont pourtant des évangiles canoniques, donc reconnus par l'Église, donc probablement un petit peu bricolés par les moines copistes et tout ça. Enfin, on n'est pas certain de l'originalité vraie de ces textes-là. Mais déjà dans ces textes-là, déjà recopiés, eh bien l'Église ne tient aucun compte à aucun moment de ce qu'elle enseigne elle-même. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais réécrire les évangiles, moi.
Tu es trop mystique pour être religieux.
Oui, ça doit être ça, ouais. Et donc j'ai dit, je vais réécrire les évangiles et voir si un Christ arrivait maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait dire, quelles seraient ses préoccupations. Donc j'ai relié ça avec un travail de Jérémy Narby sur la double hélice d'ADN et la symbolique du serpent dans le chamanisme. Et donc j'en ai fait un indien d'Amazonie, le Christ, puisque de la même façon que l'aigle romain dominait le monde et que la Judée était une colonie romaine, j'ai considéré que l'aigle américain dominait le monde et que l'Amérique du Sud était une colonie américaine, donc j'ai transposé tout ça. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir effectivement si un être de ce genre arrivait, si une sorte de Christ arrivait, ben, qu'est-ce qu'il pourrait raconter, comment on le recevrait, est-ce que on serait... Lui, évidemment, il va à l'encontre de toute idée matérialiste. J'ai travaillé sur ce point précis et en essayant de créer un évangile moderne, quoi. Modeste, mais moderne.
Comment, en général... la critique est plutôt bienveillante à ton égard ces dernières années, mais par moment, quelle...
La critique spécialisée... J'ai été dans les razzies quand même.
Spécialisée. Ah oui. Il faut peut-être expliquer la critique spécialisée. Celle qui est limitée au monde, au petit monde de la chapelle de la SF.
Voilà, c'est ça. C'est la critique plus spécifiquement science-fiction. Ouais, je suis beaucoup plus controversé que. Parce que justement, on me reproche mon manque d'originalité, mon manque de rigueur scientifique, ou ceci ou cela. C'est le jeu. Hein.
D'accord.
C'est pas ce public vraiment qui m'intéresse parce que par rapport à la science-fiction, déjà on a un petit peu de mal, c'est que quand on est dans un salon de littérature générale et que les gens passent devant les bouquins de science-fiction, qui sont souvent, il y a des petits Mickey dessus, des petites couleurs et tout ça, et les gens ils font une sorte de détour comme ça, toc, comme si les bouquins avaient une sorte de pouvoir délétère qu'il fallait éviter par un rayon de 2 mètres minimum. Et je me dis, ces gens-là, qui par principe ne vont jamais dans un rayon de science-fiction, non, la science-fiction ça ne m'intéresse pas. Ils ne connaissent pas donc la science-fiction. Ils n'en connaissent que ce qu'ils ont entendu dire, c'est-à-dire des robots contre des extraterrestres avec des machins laser. Et pour eux, ça se limite à ça. Et ils ignorent totalement la richesse du genre, quoi. Et je me dis, si j'ai la chance de capter, de choper une de ces lecteurs ou de ces lectrices dans un de mes bouquins, j'ai pas le droit de le perdre. J'ai pas le droit, parce que je suis auteur de science-fiction et que je suis supérieur à la norme, de pas lui tendre des passerelles. Je trouve ça. Je pense que chaque bouquin est un recommencement total et que chaque bouquin, dans chaque livre, n'importe quel lecteur doit être capable d'entrer et donc de repartir aux fondamentaux qui sont d'ouvrir au maximum, c'est-à-dire les fameux codes. Vous voyez, les codes de science-fiction. Quand on n'a pas les codes, ben souvent, on ne sait pas trop comment s'y prendre avec ce truc-là. Donc, c'est de faire cadeau des codes à chaque fois. C'est un acte, à mon avis, de générosité que de dire, voilà, toi, tu n'as jamais lu de science-fiction, mais tu vois, regarde. Et j'ai fait le test avec ma voisine à Bousset, qui est la femme du dentiste. Alors, lui, il me lit beaucoup, mais elle ne lit pas de science-fiction, par principe. Et donc, on a réussi à lui persuader qu'il fallait qu'elle commence dans la fraternité du Panka. Elle est devenue accro. C'est elle qui me tannait après pour la suite et tout ça. Et je me dis, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas du tout l'habitude du genre, qui ne sont pas des spécialistes du genre. Et ces gens-là, ils ont le droit aussi de découvrir la richesse dont je parlais tout à l'heure du genre. Et donc, je me dois, en tant qu'auteur, de repartir de zéro à chaque fois et de mettre des passerelles les plus confortables possibles pour que les gens arrivent le plus confortablement possible dans les bouquins.
Bah, d'une certaine façon, tu reprends la grande tradition des feuilletonistes du 19e siècle.
Hein. Oui, j'adore ça.
La littérature dite populaire. En France, le mot populaire est très péjoratif. Ah bah oui. En fin de compte, on s'aperçoit que plein de grands noms de la littérature populaire continuent de fonctionner. Alexandre Dumas, Eugène Sue et plein d'autres.
J'ai même lu un Zévaco il n'y a pas longtemps, c'est Nostradamus. Et c'est écrit de façon totalement 19e, donc c'est complètement exalté, ça part dans tous les sens, mais ça marche. C'est invraisemblable, il y a des coups de théâtre à toutes les pages, mais ça marche. Il y a une sorte d'énergie feuilletoniste, comme tu dis, ou feuilletoniste, qui fait que on a envie d'accrocher à l'histoire, on a envie de savoir, on a envie de... Voilà, bien sûr.
Je propose, il nous reste 5 minutes, on va leur piquer,
déjà
on va leur piquer un peu de temps, il n'y a pas de raison. non, enfin disons 3 minutes pour quelques questions à Pierre.
Est-ce qu'il y a un micro dans la...
Il y a un micro ici. Il n'y a personne pour le passer. Est-ce que quelqu'un est... Merci beaucoup.
Merci.
Bonjour, M. Bordage. D'abord, merci pour l'ensemble de votre œuvre.
Merci.
Notamment pour l'aspect spirituel qui m'intéresse beaucoup aussi. Et à ce sujet-là, est-ce que ça ne vous intéresserait pas de vous projeter dans une utopie où il y aurait comme un éveil spirituel dans quelques années, peut-être quelques décennies ou quelques centaines d'années, où finalement on pourrait tendre vers une société plus harmonieuse, où chacun serait à sa place et ne chercherait pas à voir ce qu'ont les autres?
Alors, ça rejoint la question que posait Lauric sur les utopies. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas proposer d'utopie parce que je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse parce que je pense que tout s'invente à chaque moment. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est d'interpeller, c'est de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres directions possibles? Est-ce qu'on ne pourrait pas voir plutôt de ce côté-là? Est-ce que le matérialisme ne conduit pas à l'échec? Est-ce que ceci, est-ce que ça? Ce qui m'intéresse, enfin, mon rôle, je pense, c'est d'interroger plus que de donner des solutions. Et il est super pénible d'écrire une utopie. Hein. Parce que, justement, cet aspect... on parlait du pessimisme tout à l'heure, c'est un peu le principe des romans et des grands récits mythologiques, c'est que si des héros se mettent en marche ou si des gens essaient de changer le cours des choses, c'est que le monde va mal, hein, quelque part. Je veux dire, si on a toute l'histoire de l'Iliade et l'Odyssée, c'est parce qu'il y a une guerre, parce que des déesses jalouses ont décidé que ça ne se passerait pas comme ça, enfin, etc. Si le Graal, si les chevaliers se mettent en quête du Graal, c'est parce que le roi se meurt et que le royaume dépérit. Et donc, on part sur toujours un constat de disharmonie. Souvent, les récits partent sur de la disharmonie. Et le rôle du héros, héros mille visages, donc Joseph Campbell, c'est un auteur qui m'avait beaucoup plu, enfin l'étude du héros.
Un grand mythologue américain.
Voilà, du rôle du héros, c'est justement de se mettre en quête, souvent un héros jeune d'ailleurs, parce que lui, il n'est pas trop modelé par la vie, justement, il n'est pas trop prisonnier de ses principes, pas trop engoncé dans ses principes. Et donc son rôle à lui, c'est de se mettre en route. De vivre son aventure, d'aller chercher quelque chose, la toison d'or, le Graal, n'importe quoi, un objet mythique, et de revenir et de ramener l'harmonie en lui-même et dans sa société. Et donc voilà, moi je suis plutôt dans cette optique-là, c'est-à-dire je constate que ça va mal, que le monde va pas toujours très très bien, et donc voilà, des héros se lèvent, se mettent en place et vont... j'assimile chaque roman à une plongée dans l'inconscient humain. C'est le grand fleuve humain, hein, et un auteur plonge dedans, va puiser au fond des trucs qui ramènent à la surface en disant voilà, il y a peut-être d'autres solutions, il y a peut-être d'autres façons. Mais les solutions, je ne peux pas en imposer parce que du coup, je deviendrais cette utopiste qui veut imposer le bonheur à tout le monde, ce que je ne veux absolument pas parce que aussi chaque être a son propre rythme d'évolution que je me dois de respecter aussi.
Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Oui.
Bonjour Monsieur Bordage, j'avais deux questions. En fait, la première, c'est est-ce qu'il y a une place pour Barjavel dans votre parcours? Et la deuxième question, c'est quand vous avez écrit, je viens de découvrir Ceux qui sauront, je crois. C'est,
ouais.
Et il y a une sorte de préface qui explique ce que c'est une uchronie. Donc,
oui.
Voilà, j'ai un peu découvert tout ça en même temps. Je me suis demandé de la poule et d'œuf, par quoi vous avez commencé? C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes dit, je fais une uchronie et je cherche? Ou alors est-ce que vous avez commencé un bouquin et vous vous êtes rendu compte après que c'était une uchronie? D'ailleurs, c'est très jouissif, je trouve, comme Ceux qui sauront, c'est vraiment très jouissif de réécrire l'histoire passée. Enfin,
Oui, une autre hypothèse historique.
Voilà, j'ai pas lu la suite, donc.
Ah, c'est mal.
Me dites pas. me dites pas la fin.
Non, voilà, je dirais pas la fin. Première question, non, je ne suis pas du tout arrivé à la science-fiction par Barjavel. J'ai complètement zappé Barjavel. Ce qui m'a fait rire d'ailleurs, parce que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le Feu de Dieu, qui est une sorte de roman apocalyptique. Et tout le monde dit, mais bel hommage à Barjavel. Ouais, super. À quel propos déjà? Donc c'était, je ne sais plus, son bouquin aussi sur apocalyptique, je ne sais plus comment il s'appelle.
Ravage.
Voilà, ouais. Ravage. J'ai toujours pas lu Ravage, parce que du coup, j'en ai lu un autre le matin, des trucs sur Merlin l'Enchanteur et tout ça.
Ah oui, ça, c'est pas ce qu'il a écrit de mieux.
Non, je confirme.
Mais il y a un côté spiritualiste chez Barjavel, à la nuit des temps, pour ceux qui connaissent.
Donc, je suis pas arrivé par Barjavel. Je suis arrivé vraiment par les écrivains de l'âge d'or américain et ni même par Jules Verne. Enfin, on n'a pas de Jules Verne, j'ai découvert plus tard, en fait, finalement. Jeune, j'ai lu un Verne, mais c'est Henri Verne et c'est les Bob Moran. C'est pas Jules. Je suis Verne tendance Henri, mais bon, c'est des choses comme ça. Donc non, Barjavel, non. Je n'ai jamais été influencé par Barjavel parce que je n'avais jamais lu de Barjavel. Ça, la deuxième chose, c'est Ceux qui seront est une uchronie parce qu'on m'a proposé de rentrer dans une collection uchronique. C'est-à-dire, c'est un ami, Alain Grousset, qui créait la collection uchronie jeunesse chez Flammarion, qui m'a dit, j'aimerais que tu fasses partie de l'uchronie, donc réfléchis à une idée d'uchronie. Ma première réflexion, ça a été, je voulais foutre le bazar un petit peu, parce que ça manquait un peu, je trouve. Je lui dis, voilà, la conquête musulmane a réussi donc au 8e siècle, et donc toute l'Europe est musulmane, et donc il y a aussi des minorités chrétiennes qui se font sauter dans les mosquées. Et alors l'éditeur m'a dit, mais non, on va pas faire ça, parce que là, c'est peut-être pas le moment. On va peut-être pas mettre de l'huile sur le feu, donc si tu avais un autre sujet. Donc ce sujet, je le garde en réserve. Mais parce que je voulais montrer aussi que l'islam aussi a une tradition mystique très forte qui s'appelle le soufisme, que j'aime beaucoup. Et je voulais faire une sorte d'Europe soufie, donc beaucoup plus apaisée que celle qu'on connaît finalement. Et je voulais renverser les choses et dire que les terrorismes, ça peut être nous, ça dépend vraiment des circonstances historiques. Éternel retour dont parlait Laurie tout à l'heure. Donc j'ai réfléchi sur une autre et j'ai regardé mes enfants. Et je me suis souvenu que quand ils devaient aller à l'école, c'était pour... grosse galère, quoi. Et je me suis dit, mais voilà, eux, ce qu'ils considèrent comme normal, c'est-à-dire l'école et tout ça, mon père ou mes grands-parents ne sont pas allés à l'école. Ils sont allés jusqu'à 10 ans et après, il fallait qu'ils travaillent. Et donc, ils n'avaient pas eu accès non plus, finalement, vraiment au système scolaire. Je me dis, mais je pousse la radicalité un peu plus loin, c'est-à-dire je vais jusqu'en 1892, à l'époque où sont promulguées les lois Jules Ferry. Donc je fais renverser le gouvernement Gambetta. C'est toujours amusant de renverser un gouvernement, surtout dans le passé. Ça ne mange pas de pain. Et donc, retour de la monarchie. Et la monarchie se rendant compte que le savoir conduit aux révolutions. Du coup, on interdit l'école aux gens du peuple. Mais bon sang, comment on n'y a pas pensé avant. Et voilà, donc toute l'histoire est partie de là. Et après, il faut créer l'Uchronie, c'est jubilatoire, effectivement, parce qu'on parle d'un point historique. Donc il faut bien connaître ce point historique duquel on crée la divergence, ce point de divergence, qui relève de la science-fiction, finalement, parce que c'est devient une littérature aussi d'hypothèses, hypothèses sur le passé, hypothèses sur le futur. Et donc, recréer une histoire parallèle qui, du coup, permet un regard en miroir très intéressant sur notre présent.
Malheureusement. Le temps est implacable. Bon, voilà. Merci beaucoup à Pierre Bordage. Merci à vous aussi.